Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission spéciale préparée pour la Saint-Sylvestre et le premier de l'an. Deux émissions spéciales et rétrospectives plus précisément, au cours desquelles nous allons revivre dans l'ordre chronologique les principaux moments qui ont fait l'actualité en République tchèque au cours de l'année 2009 qui s'achève. Une année historique pour la République tchèque puisqu'elle a pris le relais de la France le 1er janvier pour présider le Conseil de l'Union européenne pour la première fois depuis son adhésion en 2004. Une première d'autant plus historique que c'est aussi devenu une dernière depuis la ratification par les 27, y compris par la République tchèque de Václav Klaus, du traité de Lisbonne. En ce jour de Saint-Sylvestre, nous vous invitons donc tout d'abord à revivre, à travers des extraits d'entretiens et de papiers diffusés dans la rubrique « Faits et événements », les temps forts du premier semestre 2009. Le second semestre, marqué lui par le renoncement des États-Unis à l'installation du bouclier antimissile, la visite du pape Benoît XVI, l'annulation des élections législatives ou encore la difficile ratification du traité de Lisbonne, fera l'objet d'une autre émission, le premier de l'an. Commençons avec un extrait d'une interview avec le politologue français Ilios Yannakakis au sujet de la présidence tchèque de l'Union européenne, une interview d'Alena Gebertova diffusée sur nos ondes le 1er janvier 2009.
Premièrement, je pense que les Tchèques auront un rôle très difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, après la présidence française qui a été exceptionnelle, non pas parce qu'il y avait Sarkozy entre autres, parce que la situation internationale était absolument unique. Il y avait une crise économique énorme. Il fallait prendre rapidement des mesures en proportionnellement à cette crise. Maintenant arrivent les Tchèques. Les Tchèques vont hériter de deux problèmes fondamentaux. Premièrement, se trouver, comme les Français d'ailleurs, dans une situation économique difficile, européenne, mondiale. On ne peut pas, en tant que Tchèque, se dire « Ah bon, ça va bien en Tchéco », parce que la situation européenne ou internationale va avoir des effets tôt ou tard sur l'économie tchécoslovaque, l'économie tchèque et slovaque. Pour l'instant, je pense, et ça, plus tard je vais revenir sur ce point, les Tchèques n'ont pas pris conscience de cette crise économique. Du tout. Quand vous arrivez ici, on a l'impression que rien ne se passe. Donc, tôt ou tard, la République tchèque sera touchée par cela. Donc, deux questions se posent pour cette présidence tchèque. Comment envisager la crise européenne et la crise mondiale par rapport à l'Europe? Deuxièmement, comment répondre en même temps à la crise économique qui va toucher tôt ou tard, je le dis, je le répète, la République tchèque. Est-ce qu'ils sont préparés pour cela, les Tchèques? Il est très difficile de juger. On ne juge que dans la pratique et non pas de façon théorique. D'autant plus, que la classe politique tchèque a une position relativement tiède par rapport à l'Europe. Et c'est ça aussi un grand handicap. D'autant plus que j'ai pas besoin de le souligner que le président de la République tchèque est un anti-européen viscéral. Il y aura le traité de Lisbonne qui est en jeu. Il y aura l'accord de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque pour, faire sien la République tchèque du traité de Lisbonne. Donc les enjeux sont énormes. Voilà comment je vois la présidence tchèque qui va débuter le 1er janvier.
Avec la crise financière, mais aussi la crise du gaz, fruit d'un différend entre l'Ukraine et la Russie qui touche en plein hiver une importante partie de l'Europe et le conflit israélo-palestinien, le gouvernement tchèque entame l'exercice de sa présidence européenne dans un contexte international extraordinairement tendu et n'a donc pas la tâche facile. Cette tâche est d'autant moins facile que la République tchèque est perçue à l'étranger comme un pays eurosceptique. Surtout à cause de son président, Václav Klaus, autoproclamé dissident de l'Union européenne, mais aussi notamment parce que Prague traîne des pieds pour ratifier le traité de Lisbonne qui doit venir réformer les institutions communautaires. On écoute à ce sujet Mihaela Jelinkova, la porte-parole du vice-premier ministre en charge des affaires européennes, Aleksandr Vondra, une interview d'Alexis Rosenzweig diffusée le 2 janvier.
La République tchèque reste le seul pays de l'Union européenne à ne pas s'être prononcé sur le traité de Lisbonne. Est-ce que le succès de la présidence tchèque dépend du processus de ratification et de cette potentielle ratification du traité de Lisbonne ?
Je ne pense pas, parce que la ratification est un processus indépendant de la présidence. Donc on peut dire que la présidence tchèque va se concentrer sur le débat autour du traité de Lisbonne, parce que on ne va pas, pendant notre présidence, résoudre le non irlandais. Dans le sens où que le référendum, comme vous le savez, le Conseil européen, en fait, a plus ou moins dit que ce serait en automne, donc c'est la présidence suédoise. Ensuite, il faut quand même savoir que toutes les ratifications de tous les autres traités de cette importance ont pris 2 ans ou plus. Donc maintenant, on est à 1 an de la signature de ce traité. Le fait que ce soit ratifié par cette vitesse est effectivement une sorte c'est le résultat d'une certaine hâte de le ratifier. Mais il ne faut pas oublier que dans cette histoire de l'Union européenne, le processus démocratique a pris toujours 2 ans. Donc on est bien dans les délais. Nous, on a fait, selon notre constitution, ce qui était nécessaire. Donc maintenant, on a la séparation, comme vous le savez, en Europe, du pouvoir exécutif, juridique, législatif. Maintenant, l'exécutif et la justice ont fait leur devoir. Le gouvernement a signé. Le gouvernement a défendu le traité de Lisbonne devant la Cour. C'était Monsieur Vondra lui-même qui était là. Ensuite, la Cour, les 16 juges ont dit que tous les points de doute qui ont été soumis à cet ensemble de juges ont été non valides. Donc c'est très exceptionnel. Donc tout ce qui se passe en République tchèque va dans le sens d'un processus, d'un devoir bien fait. Mais en tout cas, je reste persuadée qu'il y a la possibilité pour la République tchèque de ratifier effectivement pendant notre présidence. On va voir si c'est le cas. Personnellement, je pense que ce serait bien.
On le sait aujourd'hui, ça n'a donc pas été le cas. Loin s'en faut même. Mais laissons un peu de côté ce traité de Lisbonne au processus de ratification si compliqué et, avouons-le, parfois lassant à la longue, pour passer à un autre moment de la présidence tchèque qui a fait beaucoup rire certains et beaucoup moins d'autres. Il s'agit bien entendu de la sculpture intitulée Anthropa du controversé plasticien David Černý, une sculpture installée à Bruxelles devant le siège du Conseil de l'Union européenne. Rappel des faits avec le papier de Václav Richter diffusé le 13 janvier.
C'est un immense puzzle accroché sur une charpente métallique où les auteurs se proposent de représenter les pays de l'Union européenne comme ils sont perçus par le reste du continent. L'œuvre est appelée Anthropa. Le ministre tchèque chargé des affaires européennes, Alexandr Vondra, souligne le caractère international du projet.
Il s'agit d'un travail collectif. 27 plasticiens européens se sont réunis pour réaliser ce projet. Leur nombre est donc le même que celui des États de l'Union européenne.
Le père spirituel et coordinateur du projet David Černý doit sa notoriété en Tchéquie à quelques installations qui ont choqué le public. C'est lui qui a provoqué en 1991 un tollé en peignant en rose un tank russe installé sur une place pragoise pour symboliser la libération de Prague par l'armée soviétique en 1945. Irrespectueux face aux symboles de l'histoire, il l'est aussi face aux institutions européennes.
Tout ça, c'est une grande rigolade. Ici, c'est une baraque qui dégage une sensation d'oppression. Les gens de la maison se considèrent comme très importants. C'est très bureaucratique et nous y apportons un peu de gaieté. C'est un regard légèrement ironique qui exploite certains préjugés généralement répandus et qui sont rigolos.
S nějakýma legračníma všeobecnýma předsudkama.
S'agit-il vraiment d'une œuvre collective de 27 auteurs? Ce n'est pas sûr, car selon certaines sources, David Tcherny serait le seul auteur de l'ensemble du projet qui se moque des préjugés des pays membres de l'Union à l'égard de leurs voisins européens. L'Autriche, grand adversaire de la centrale de Temelin, est représentée comme un prévert avec au milieu d'immenses tours de refroidissement d'une centrale nucléaire, et les Pays-Bas sont évoqués par un espace complètement envahi par la mer, d'où ne surgissent que des minarets. La partie du puzzle réservée à la Bulgarie est parsemée de toilettes à la turque. L'Allemagne, elle, n'est qu'un lopin de terre qui disparaît sous un réseau d'autoroutes, et la carte de France est entièrement couverte d'une pancarte avec l'inscription « Grève ». La Tchéquie est représentée par un écran en forme de ses frontières où défilent les citations des discours du président Václav Klaus, grand critique de l'Union européenne et accusé d'euroscepticisme. Václav Klaus y trouvera ses sentences dans un cadre d'or. Que peut-il avoir contre ses propres idées qui sont immortalisées, demande ingénument David Tcherny. Son installation amusante et ironique fera sans doute sourire, mais il est fort probable que souvent ses sourires seront crispés.
Autre thème d'actualité relatif à la présidence tchèque en début d'année, les relations entre Prague et Paris. Les Tchèques font ce qu'ils peuvent, a même déclaré Nicolas Sarkozy. Le président français avait également affirmé que fabriquer des voitures françaises en République tchèque pour les vendre sur le marché français n'était pas justifiable. Des mots qualifiés d'incroyables par le Premier ministre tchèque, le ton était donc monté d'un cran entre les deux pays. Directeur de Sciences Po Dijon, le politologue Lukáš Macek était alors bien placé pour analyser ces relations franco-tchèques tendues. Nous sommes alors le 17 mars.
Lukáš Macek, avant le début de la présidence tchèque de l'Union européenne, tout le monde semblait craindre les sorties eurosceptiques du président tchèque, Václav Klaus. Finalement, et je voudrais avoir votre avis sur cette question, on a l'impression que celui par qui arrive la polémique, c'est finalement le président Sarkozy, accusé de protectionnisme.
Je crois que c'est un peu exagéré de présenter les choses comme ça. Je vous rappellerai que... En fait, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui aussi remplissait les journaux dans les mois qui précédaient le début de la présidence tchèque, à savoir la peur que le président français ne saura pas passer la main aux Tchèques. Et je crois que c'est cette dernière affaire avec les constructeurs automobiles entre la République tchèque et la France est une illustration de cette difficulté-là. Quant à président Klaus, ça se situe à un niveau un peu différent.
Justement, vous en parliez, la République tchèque a été directement visée lors de cette intervention télévisée du président Sarkozy, où il a parlé des délocalisations et d'éventuelles relocalisations avant de revenir sur ses paroles. Est-ce que les échanges entre Paris et Prague, d'après le New York Times, ces échanges sont dignes d'insultes d'adolescents dans la cour de récréation? Alors est-ce que selon vous, ce type d'échange peut menacer la capacité de l'Union européenne à faire face ensemble à la crise?
Le propos que vous citez est cruel, mais je ne suis pas loin de penser quelque chose de similaire. Je pense que en soi, cette affaire-là est une chose sans grande importance, mais elle est très révélatrice de deux problèmes de fond qui, du côté français, est une sorte de méfiance à l'égard des pays d'Europe centrale, à l'égard de l'Union européenne post-2004, et plus précisément une certaine difficulté du président français à se faire à l'idée que, après lui, la présidence européenne est assurée par la République tchèque. Du côté tchèque, une méfiance assez épidermique à l'égard des grands États, et notamment la France, et là-dessus on pourrait parler de beaucoup de représentations qui relèvent souvent des clichés sur la France auprès des élites politiques de la République tchèque, et notamment les élites gouvernementales actuelles.
Un mois plus tard, Lukáš Macek s'exprime de nouveau sur nos ondes, mais cette fois pour une autre raison, plus grave, la République tchèque vit en effet une nouvelle crise politique. La coalition gouvernementale de centre-droit dirigée par Mirek Topolánek est tenue de démissionner après que la motion de censure déposée par l'opposition social-démocrate a été adoptée par la Chambre des députés. Il s'agit d'une première dans l'histoire du pays, une première qui arrive au plus mauvais moment, en pleine présidence de l'Union européenne. Lukáš Macek estime alors que la scène politique tchèque démontre tout son manque de responsabilité.
je crois que les conséquences seront à long terme beaucoup plus graves pour la République tchèque. Si on raisonne en termes de l'influence, de la position de la République tchèque au sein de l'Union européenne, je crois que la scène politique collectivement vient de démontrer qu'elle est extrêmement légère dans sa façon de considérer ces choses-là et qu'elle manque de responsabilité à ce niveau.
Pour certains politiciens tchèques, ceux qui sortent vainqueurs de cette motion de censure et de la chute du gouvernement Topolánek, ce sont deux personnages que sont Václav Klaus d'un côté et Nicolas Sarkozy, le président français, de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai pas pensé à Nicolas Sarkozy. Pour Václav Klaus, j'en suis persuadé. Et je pense que c'est ça l'erreur fatale de la classe politique et une très lourde responsabilité des sociaux-démocrates qui, en plein milieu de la présidence tchèque de l'Union européenne, remettent au centre du jeu politique Václav Klaus, qui est réputé pour son attitude très négative par rapport à l'Union européenne, et donc lui remettre les clés, entre guillemets, du pouvoir exécutif tchèque pile au moment de la présidence, c'est vraiment une irresponsabilité sans nom. Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas tort. Je crois qu'effectivement, la présidence tchèque vient de connaître un coup peut-être pas fatal. Il faut être optimiste, mais c'est un affaiblissement considérable, malheureusement.
Alors, il y a des échéances importantes à court terme pour la présidence tchèque de l'Union européenne. Il y a notamment le G20 et puis la venue ici à Prague de Barack Obama. Ce sera le 5 avril. Est-ce que le Premier ministre démissionnaire peut continuer à gérer de tels dossiers ?
Un, ça dépendra du président de la République, c'est-à-dire on ne sait pas si le 5 avril le Premier ministre Topolánek sera toujours dans son office. C'est possible, beaucoup appellent à ce que ce soit la solution, mais c'est pas sûr. Donc je n'en sais rien, ça dépend entièrement du président de la République. Maintenant, si c'est ça la solution, c'est par la force des choses, il assumera ses responsabilités, mais que politiquement son influence et sa crédibilité se rapprochent de zéro, c'est évident. Évidemment, un gouvernement démissionnaire qui ne fait que gérer les affaires courantes est un partenaire très faible pour tous les autres, que ce soit des partenaires européens ou des partenaires internationaux au-delà des frontières de l'Union. Et en plus, si c'est ça la solution, je crois que l'irresponsabilité de la Chambre des députés qui s'est manifestée hier en devient encore plus évidente, parce que quelque part, tout ça pour ça. S'il fallait enlever la légitimité politique au gouvernement pour qu'il continue à gérer la présidence affaiblie de la sorte, tout en restant aux affaires pendant 3 mois encore, je ne comprends vraiment pas l'intérêt et je trouve que je me répète, mais c'est d'une irresponsabilité sans nom.
Quelques jours à peine plus tard, le 5 avril, Barack Obama est en visite à Prague. Devant le château, le président américain prononce son premier discours en Europe depuis son élection. Et pas n'importe quel discours, puisqu'il se dit favorable à un monde sans armes nucléaires. Une position qui contribuera, en fin d'année, à son prix Nobel de la paix. Le lendemain, Alexis Rosenzweig revient sur l'essentiel à retenir du passage de Barack Obama.
Son discours d'abord, son premier discours public en Europe depuis son élection, et un discours parfois qualifié d'historique par les commentateurs. Nous ne reviendrons pas dans cette émission sur les thèmes majeurs de ce discours, l'espoir d'un monde sans armes nucléaires, l'énergie et l'environnement, ou encore les moyens de lutter contre la crise financière, mais nous nous attarderons davantage sur les parties de ce discours consacrées à la République tchèque, et notamment à la révolution de velours qui s'est déroulée à Prague il y a 20 ans. Barack Obama en tchèque dans le texte.
Sametova revoluce. The velvet.
Sametova revoluce. La révolution de velours nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a montré que la protestation pacifique pouvait secouer les fondations d'un empire et dévoiler le vide d'une idéologie. Elle nous a montré que des petits pays pouvaient jouer un rôle pivot dans les événements mondiaux et que les jeunes pouvait jouer un rôle majeur dans le règlement des vieux conflits. Et elle a prouvé que le leadership moral était plus puissant qu'aucune arme.
And it proved that moral leadership is more powerful than any weapon.
Nous sommes ici parce qu'Américains et Tchèques croyaient envers et contre tout qu'aujourd'hui serait possible, a ajouté Barack Obama, qui a insisté sur la force du lien tchéco-américain. Et les relations tchéco-américaines aujourd'hui sont souvent liées à une question géostratégique qui dépasse largement le simple cadre de la relation entre Washington et Prague.
la question du bouclier antimissile américain en Europe. Un projet mené par les administrations précédentes qui prévoit, vous le savez, une base de missiles en Pologne et un radar en République tchèque.
The Czech Republic and Poland have been courageous in agreeing to host a defense against these missiles.
La République tchèque et la Pologne ont été courageuses en acceptant d'accueillir un système de défense antimissile. Tant que la menace iranienne persiste, nous poursuivrons un tel projet dont l'efficacité serait prouvée. Si la menace iranienne est éliminée, nous aurons un socle plus solide pour la sécurité et la force motrice pour la construction d'une défense antimissile en Europe sera éliminée.
And the driving force for missile defense construction in Europe will be removed.
Interrogé après ce discours sur le sens de ce paragraphe, le Premier ministre tchèque, Mirek Topolánek, a déclaré que le projet de bouclier antimissile américain n'était en aucun cas à jeter aux oubliettes de l'histoire.
Mirek Topolánek ne le savait pas encore, mais il se trompait, puisque ce projet de bouclier serait bien à jeter aux oubliettes. Mais nous y reviendrons demain. En attendant, 4 jours plus tard, c'est Jan Fischer qui est nommé à la fonction de Premier ministre. Incroyable mais vrai, la République tchèque dispose alors de 2 chefs du gouvernement. Mirek Topolánek, chargé de gérer les affaires courantes pendant encore quelques semaines, et Jan Fischer, donc, qui dirige jusqu'alors l'Office national des statistiques. Mal connu du public, beaucoup doutent de ses capacités à diriger un cabinet d'experts qu'on pense alors de transition censé mener le pays à des élections législatives anticipées à l'automne. Le 6 mai, soit 6 semaines après la démission de la coalition dirigée par Mirek Topolánek, ce nouveau gouvernement d'experts est enfin au complet. Un gouvernement qui se définit comme ouvert au dialogue avec tous les partis et dont le chef, Jan Fischer, se charge de la fin de la présidence de l'Union européenne. Une fin de présidence marquée par les sommets de l'Union européenne avec la Russie et la Chine et enfin celui du Conseil européen censé porter sur le traité de Lisbonne. Mais rien d'extraordinaire ne ressort finalement de ces sommets, donnant le sentiment que la présidence tchèque se termine un peu en queue de poisson. Le 30 juin, notre rédactrice en chef, Alena Gebertova, dresse donc logiquement un bilan mitigé.
Après la Slovénie, la République tchèque, qui a adhéré à l'Union européenne en mai 2004, était le 2e pays post-communiste à prendre les rênes de cette présidence. Mercredi, la République tchèque passe le témoin à la Suède. L'heure est donc venue de dresser le bilan. On écoute le Premier ministre Jan Fischer en poste depuis le mois de mai.
Dès les premiers jours, la République tchèque a été appelée à coordonner les positions européennes en rapport avec la crise de Gaza et la crise gazière aussi. Cela a été un grand test des capacités tchèques et je suis convaincu que la représentation politique d'alors s'est acquittée avec succès de ces tâches.
L'approche anti-protectionniste lors de la crise économique et financière, tout comme les résultats du sommet du Conseil de l'Union européenne qui s'est déroulé en juin dernier sous la baguette tchèque, se présente selon Jan Fischer comme autant de moments positifs de la présidence tchèque.
La présidence tchèque a prouvé que même un nouveau pays membre de taille moyenne est à même d'apporter sa contribution à l'Union, de laisser sa trace et pas seulement de faire tourbillonner la poussière.
Dans un récent débat télévisé, l'ex-premier ministre Mirek Topolánek a lui aussi donné de bonnes notes à la mission européenne de son cabinet. Une mission caractérisée pourtant par la difficulté à imposer son autorité sur les 27 après la présidence de Nicolas Sarkozy. Une mission interrompue à la mi-temps par la chute de son cabinet, chute qui a été décrite dans la presse française comme un coup de théâtre dont l'Union européenne se serait bien passée dans le contexte de la crise. La présidence tchèque a-t-elle donc été un succès relatif ou un échec? Indulgent dans le pays, les évaluations et les commentaires sont nettement plus sévères sur la scène internationale. Les critiques visent notamment l'euroscepticisme du président Václav Klaus, certaines déclarations mal placées de Mirek Topolánek ou encore le goût tchèque prononcé pour la dérision, pas toujours apprécié de tous, et qui accueille donc le relais passé à la Suède avec soulagement. Ce qui semble certain avec la fin de la présidence tchèque, c'est que celle-ci a donné naissance à un nouveau stéréotype dans la pensée européenne, selon lequel les Tchèques sont de